Christiane Singer, bonjour. Vous êtes écrivain, auteur de nombreux romans comme La mort viennoise ou Histoire d'âme. Mais tous ceux qui vous lisent savent que, par la voie de la fiction, c'est la quête de l'essentiel qui vous anime depuis longtemps. Et voici que vous délaissez le roman pour nous proposer coup sur coup deux essais, deux méditations profondément humaines et spirituelles. D'une part, éloge du mariage, de l'engagement et autres folies. Et un deuxième livre, toujours chez Albin Michel, Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? Christiane Singer, vous écrivez dans Où cours-tu ? Tout sur terre suinte de sens. Pourtant, nous n'avons jamais autant entendu parler de quête de sens, de recherche du sens de la vie. C'est pas aussi simple de trouver le sens. Vous le voyez partout.
Peut-être qu'on ne le trouve pas parce qu'on le cherche. Qu'on est sans cesse en train de le harceler, de le poursuivre. Alors qu'il est là partout, mais seulement si je prends le temps de le laisser me rencontrer. C'est le paradoxe, c'est la folie quand je cherche quelque chose avec trop d'intensité, quand je cours après. Il est obligé de fuir. C'est une véritable dynamique. Mais à partir du moment où je m'arrête, je me laisse surprendre par ce qui m'entoure, par ce qui est, je m'aperçois qu'il n'y a pas une seconde qui ne secrète pas du sens.
Mais quel est-il ce sens dont on parle tant aujourd'hui ?
La folie, c'est que je ne puisse pas le prendre dans une formule. Ce serait dérisoire. Que serait un sens que je pourrais enfermer dans une formule ? Ce serait immédiatement insignifiant. C'est cette intensité qui nous rencontre quand on est à l'écoute du monde qui nous entoure. Quand on prend la peine de déplacer les paravents qu'on a disposés devant soi et qui sont autant de concepts et d'idéologies de représentation des choses, on les laisse un instant de côté pour entrer véritablement dans une rencontre. Et là, alors là se passe quelque chose d'extraordinaire, mais il faut encore patienter dans cet état-là. Il faut attendre que ce que j'ai rencontré, disons, un arbre, bon, je me promène, je vois un arbre, et un instant, mais pas seulement regarder en disant « Ah, voilà un bel arbre !» Mais s'arrêter, et puis regarder, et attendre qu'il se passe cette chose folle, que l'arbre se mette à vous regarder, que quelque chose vienne de l'autre côté. Et puis alors s'instaure dans cet antre, entre ce que je contemple et ce qui me contemple, un espace qui est la vraie vie. Seulement ça, c'est d'une telle subtilité que ça ne peut pas se vendre puisque ça ne coûte précisément rien. Donc ça tombe à travers le tamis de notre société mercantile.
Mais à vous lire et à vous entendre, cela demande une condition, d'arrêter de courir. D'où le titre de votre livre, Où cours-tu ? Cette question, que se cache-t-il derrière cette question ? Où cours-tu ?
C'est toute une existence, parce que bien entendu, comme tout un chacun, j'ai passé ma vie à courir aussi par ailleurs. Mais pour entrer justement dans cette surprise incroyable, que ce que tu harcèles, ce que tu recherches, ce vers quoi tu es en quête, t'attend quand seulement tu peux un instant t'arrêter. Quand seulement tu peux un instant te dire « Bon, ça ne peut pas être ni dans cette direction, ni dans celle-là, j'y suis déjà allé, là j'ai couru, là je suis allé voir par ici et je suis allé voir par là. » Attends, un instant. Et dans cet instant où simplement je me laisse me rencontrer, je me laisse rencontrer cette respiration qui m'habite par exemple. Écoutez cet inspire. Et puis l'expire, l'accompagner. Et c'est d'une telle banalité qu'on a de la peine à pouvoir l'exprimer. Il faudrait vraiment que nous ayons le temps de l'expérimenter ensemble. À partir de ce moment-là, se crée un espace qui est totalement inespéré, qui respire avec moi. Voilà. Hein, ça ce serait, mais enfin, c'est pas une, vous me direz, on peut pas passer sa vie à écouter sa respiration.
Non.
Et moi je vous dis, peut-être, il ne s'agit pas de passer toute sa vie, mais de créer à chaque instant des espaces. Quand je suis, par exemple, entre deux lieux où je me rends, il y a cet espace de liberté. Il y a un poème merveilleux de Hulda Lynn qui m'est tombé entre les mains voilà quelques jours, où Hulda Lynn parle de ce chemin vers l'école, où il dit que c'est le seul instant de liberté qu'a l'enfant, en quittant la maison familiale et en traversant cet espace qui le mène jusqu'à l'école. Entre les deux lieux où on l'attend pour l'élever, pour le fabriquer, pour le manipuler, il y a cet espace immense. Et ce sont ces espaces entre que notre société a occupé avec une violence et une cruauté indicibles. Même les malheureux enfants qu'on vient chercher devant la porte de leur maison pour les amener à l'école en car scolaire. Vous voyez, c'est exactement ça. Notre société détruit l'espace entre les choses. Et c'est cet espace-là qu'il s'agit de découvrir. Il ne s'agit pas de renoncer à l'action, de renoncer à la rencontre, à la vie, à l'effervescence de la vie. Mais entre tous ces espaces où je suis sollicité, où je suis dans l'action, il y a toujours un entre. Que ce soit dans l'ascenseur, que ce soit dans le petit café où je vous attendais, n'est-ce pas ? Il y a un espace où j'attends une nouvelle rencontre qui va venir vers moi. Et puis il y a l'espace après où un taxi va m'emmener ailleurs. Ce sont ces espaces-là qu'il s'agit de reprendre, de réhabiter en profondeur. Au lieu de les occuper en me disant « Ah voilà, mais ce que j'ai dit, j'aurais pas dû dire ça, tout le travail de ce qui vient de se passer, ou l'anticipation de ce qui va arriver avec l'angoisse, est-ce que je vais pouvoir répondre ?» Hein? Tout cet espace où le mental s'emballe et occupe, mais avec une férocité incroyable, cet espace qui serait à ma disposition pour ma liberté.
Mais cet espace demande d'être très présent, de ne pas être dans le futur, ni dans le passé, mais d'être dans l'instant présent.
Mais bien sûr. C'est ça qui est fou, c'est que dans cet univers où nous habitons, ils sont créés en permanence des attentes, des sollicitations, on est arraché hors de soi en permanence, il te manque ceci, ceci te manque, on a fabriqué, on a fait de nous des êtres de manque, alors que nous sommes intrinsèquement des êtres entiers, des êtres ronds, des êtres de plénitude, et c'est cette plénitude que je rejoins quand j'ose un instant faire halte.
Et quand vous écrivez que le ciel est en nous.
Voilà, c'est une superbe phrase d'Angelus Silesius, un des grands mystiques de notre Europe, qui habitait en Silésie, une des très proches de la région où j'habite aujourd'hui.
Christiane Singer, quand on vous lit, on voit que vous n'êtes pas toujours très tendre avec la société, avec le monde qui nous entoure. J'aimerais que vous nous parliez un peu de votre regard sur cette société.
Immédiatement, lorsque vous me dites ça, je suis remplie de confusion et je me dis quelle horreur, de quel droit est-ce que je m'érige en juge. Vous voyez, c'est vraiment la première réaction que j'ai. Cette impression, non, je vous en prie, ne croyez pas que je me situe ou que je m'érige en juge devant cette société. Et pourtant, plus je rejoins cette richesse qui m'habite, et plus je perçois, c'est ça qui est fou, c'est pas que lorsque on entre dans un processus d'intériorité, on se détache de la société qui nous entoure, mais on la voit subitement dans sa violence, c'est-à-dire dans son intrusion dans notre rapport au monde. Si elle se contentait de faciliter notre existence, de nous permettre de nous y orienter, mais elle nous occupe en permanence, au sens d'une armée étrangère qui occupe un pays. Nous sommes sans cesse occupés. Je vous assure, ce que nous venons de dire sur ces espaces libres, quand j'entends, par exemple, que les malheureux enfants de mon entourage sont, dès qu'ils sortent de l'école, inscrits à un cours de judo, à un cours de création artistique ou de je ne sais pas quoi.
Ou sont plongés devant la télévision
sont plongés. Voilà. Mais personne ne songe à leur ménager cet espace où ils peuvent advenir, où ils peuvent se mettre à exister. Ce temps délicieusement perdu. Nous ne sommes humains que par cet espace d'oisiveté, que par la culture du temps perdu. Et c'est sans ça. Et notre société est exactement le contraire. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de vendre en permanence des choses. C'est une société totalement mercantile. Donc, elle n'a pas d'autre chance que de créer en permanence des désirs, des souhaits, dans cet espace de manque qui se crée, d'introduire des trucs, des machins, des choses, prothèses.
Nous sommes manipulés aujourd'hui par cette société de
consommation. Mais écoutez, moi, je ris beaucoup dernièrement, dans une discussion de podium sur les sectes. Bien entendu, c'est pas la peine d'y revenir. C'est évident que toute forme de manipulation est tellement, tellement à rejeter que ça fait pas long. Il y a pas même sujet à discussion. Mais pour ma part, je me suis permise de dire que nous vivons dans la grande secte collective qui est la société de consommation et qui a des moyens de lavage de cerveau qui sont tellement plus considérables que les plus redoutables parmi les sectes que je m'en amuse. C'est incroyable de ne pas déceler que nous vivons dans le faux sens du terme, parce que j'aime pas non plus qu'on utilise des vieux concepts comme ceux de sectes qui sont si respectables dans d'autres cultures pour en faire les choses les plus haïssables. Là aussi, il faudrait trouver aussi d'autres expressions pour indiquer ces enclaves de manipulation. Mais c'est vraiment, nous y vivons, nous sommes bombardés en permanence pour n'être jamais laissés avec nous-mêmes. Pour que jamais cet être de liberté qui nous habite ne puisse se redresser et dire attention, et moi, où est l'espace dont j'ai besoin pour vivre et pour fleurir ?
Vous dites que vous avez une passion pour les jeunes, vous en rencontrez souvent, vous allez les voir dans les écoles. Vous faites du souci pour ces jeunes ?
Non, pas de souci. Il n'y a pas, on ne peut pas faire plus de mal à un autre être humain qu'en se faisant du souci pour lui. Qu'en faisant surgir ce fantôme de la peur ou de l'appréhension pour son avenir. Je leur fais totalement confiance. Moi, je suis sidérée par la force d'authenticité et de vérité qui est dans ces jeunes. Ça, c'est l'aspect, voyez, c'est l'aspect positif de notre modernité. Il y a un tel appel de vérité. On sent tout de suite les masques chez quelqu'un. Les jeunes les sentent si ardemment. Ils ont un tel souci de sentir une relation vraie dans sa vérité. Ils enlèvent tout ce qui est décorum, tout ce qui est
hypocrisie,
n'est-ce pas ? Ça me frappe beaucoup ce désir d'authenticité qui est chez les jeunes gens. Il me touche beaucoup et j'ai l'impression que dans leurs relations les uns envers les autres, il y a beaucoup de vérité, d'intensité, beaucoup plus que ce que nous osions dans ma génération, dans l'adolescence. Vraiment, moi je suis pleine d'admiration pour eux et je sens qu'il y a un tel potentiel de vie. Ce que je redoute le plus, c'est lorsqu'on leur coupe les ailes de cette créativité qui les habite, en leur donnant des réponses en permanence. Vous savez, le drame, par exemple, du système scolaire et de tout ce système d'information, c'est qu'il vous donne des réponses à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Et le drame est là. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un vous pose une question, c'est merveilleux, on peut déballer des richesses considérables de réponses. Mais quand l'envie de poser cette question n'est pas venue, Alors on est gavé comme des malheureuses oies et on finit évidemment dans des boîtes de conserve. Qu'est-ce que c'est ? Il y a pas d'appel de connaissance. On laisse pas monter en eux ce cri. Je veux savoir. Dites-moi. Je veux savoir ceci. Et d'aller fureter partout à la rencontre d'une réponse. On les bourre de réponses toutes faites qui n'ont. Oui.
J'ai l'impression que vous êtes en train de nous décrire le système scolaire tel qu'il est vécu ici.
Ben oui, malheureusement.
C'est pas en Autriche où vous vivez, mais en France, c'est comme cela.
Malheureusement, il est partout. C'est partout la même chose. Il faudrait cet espace pendant de longues années où l'enfant se met à se passionner pour ce qui tient le monde ensemble. Qu'est-ce que c'est ? Se met à interroger, et ceci, et cela, comment cela a été vu, et cela, comment... Et dans cette interrogation-là, pourrait monter le foisonnement après d'un enseignement, d'une grande richesse qui serait fondée sur ce dialogue, sur cette interrogation permanente.